Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation d'une heure avec un ou une artiste, ce soir, Jeanne Chéral.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Jeanne Chéral.
Si l'on entend bien l'oreille, nous avons toujours beaucoup d'âge en même temps. Mais sommes-nous toujours en mesure de savoir quelle bouche rit quand nous rions à 62 ans et s'il n'y a pas dans les dents qu'on affiche quelque chose des dents de lait que nous avions à 8 ? Sommes-nous toujours en mesure de savoir quelle peau est caressée lorsqu'à 16 ans nous frissonnons et quelles larmes nous versons lorsqu'à 17 ans nous fondons? Alors oui, pourquoi pas faire de la quarantaine le milieu trouble des vies et pourquoi pas, comme le dit l'expression, s'en moquer comme de l'an 40. C'est dans ce double élan que se situe votre dernier disque, Jeanne Chéral, prendre cette histoire de 40 ans au sérieux et vite la dépasser dans un sourire. Ce même double élan qui existe depuis vos débuts, dire les choses comme elles sont, comme elles vont, littérales, et continuer de chérir toujours plus l'art de la métaphore. Basse et batterie sont à l'honneur pour célébrer les racines et les pieds sur terre. Chœur, cuivre et flûte le sont aussi pour permettre toutes les envolées dans ce disque qui paraît chez Barclay. Bonsoir à vous, Jeanne Chéral.
Bonsoir Marie.
Il s'appelle L'an 40. Mmh. Vous vous en fichez pas mal comme de l'an 40 ou vous prenez cette histoire au sérieux ?
Je la prends très au sérieux, mais je la prends bien.
Mais en tout cas, ça veut dire quelque chose pour vous, cette moitié de vie, ce qu'on appelle ce passage-là?
Ouais, j'ai eu l'impression, en entrant de plein pied dans ma quarantaine, d'entrer dans une super période, en fait, dans un passage de ma vie où je sais enfin à peu près où je suis et qui je suis.
Et pourtant, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup, qu'on dit comme ça, la quarantaine, pas mal pour les femmes, pour les hommes, on va y venir, mais vous n'avez pas eu l'impression de mettre les pieds dans un terrain balisé parce qu'on avait dit que c'était comme ça. C'était juste vous, votre propre expérience et votre propre surprise de ça.
Ouais, vraiment. C'est une espèce de feu intérieur, d'impression intérieure, de m'être dit. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir consacrer l'année de mes 40 ans à l'écriture de mon disque. C'est un luxe que je me suis offert parce que on est quand même dans un monde, dans des métiers où ça bouge tout le temps, où on est dans l'urgence, dans la rapidité, dans l'effervescence, quoi. Et je me suis offert ce cadeau, en fait, ce cadeau de 40 ans de ne rien faire d'autre que mon album pendant un an.
Ça prenait quelle forme ?
Alors, je me suis retirée une semaine par mois dans des endroits qu'on me prêtait, des maisons qu'on m'a prêtées à La Réunion, en Auvergne, dans la Drôme. Et c'était une manière, c'était un isolement volontaire en fait, une manière de me retirer, d'être vraiment au cœur de ma musique, de ce que j'avais envie d'aborder, de ce que j'avais envie de dire. Sans contrainte horaire, sans contrainte familiale, sans contrainte d'aucune sorte. C'est génial, c'est un luxe.
Est-ce que c'est une manière de dire que sans ça, c'est pas vraiment possible ?
Bah, ça, en tout cas, de mon point de vue, enfin, c'est vraiment très très personnel, hein, la manière de travailler. Il y a des chanteurs, il y a des artistes qui adorent bosser en tournée, par exemple. Moi, j'ai vraiment besoin de ce sentiment de retrait, de recul, d'oubli presque. C'est une nécessité, en fait, de me retrouver sans rien d'autre que le cœur de mes chansons à m'occuper.
Est-ce que c'est une solitude qui est toujours agréable ? Hier, on recevait le réalisateur Franck Beauvais et puis on évoquait avec des archives, justement, l'espèce d'état d'attente ou d'inquiétude qui précède le moment où on finit enfin par faire quelque chose. Est-ce que vous le vivez toujours bien ?
Non. Vraiment pas. De toute façon, quand notre travail repose sur notre capacité à se renouveler, à se réinventer, à créer, enfin quand on est sa propre matière première, on peut jamais être tout à fait serein, je pense. Donc c'est des moments de doute, de recherche, où on se sent plus ou, enfin moi personnellement je me sens plus ou moins légitime ou merdique à certains moments, mais ça, vraiment ça fait partie du processus, je pense.
Les lieux dont vous parlez, ils ont joué quel rôle dans l'écriture de ce disque ?
Ça a été des endroits où vraiment je me suis sentie en sécurité, en fait. En sécurité, en cocon, en bienveillance. J'étais, par exemple, à La Réunion, j'ai des vraies attaches amicales à La Réunion, donc je savais que, de toute façon, enfin, j'étais pas dans une solitude absolue. J'avais quand même toujours à proximité, voilà, un ami qui pouvait passer. Enfin, c'est une solitude quand même relative. Et en sécurité parce que c'est aussi c'est une année aussi où j'ai vraiment coupé avec les réseaux sociaux. Ça a été hyper bénéfique, je trouve.
Pourquoi très... c'était un endroit où vous étiez très active?
Pas
ou
très.
Active ou en tout cas ou regardante ou vous passiez du temps ou...
J'y ai jamais passé beaucoup de temps. En ce moment, un petit peu plus parce que c'est aussi le jeu, voilà, d'une sortie de disque. On a envie de communiquer sur ce qu'on est en train de faire. Mais cette année sans réseaux sociaux, je l'ai trouvée hyper douce, quoi, hyper apaisante, calme. ça fait du bien de temps en temps.
Mais c'est étonnant, vous liez à la sécurité. Tout de suite après la sécurité, vous dites « Ah, je me suis sentie en sécurité dans ces lieux-là et j'étais très loin des réseaux sociaux. »
Ah, c'est vrai, je l'ai dit sans y penser, mais c'est vrai que c'est pas un hasard si j'ai fait le lien, effectivement. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une vitrine qui peut parfois être très intrusive, quoi, très intrusive. Et encore, moi, j'utilise vraiment ce genre de médias uniquement pour parler de mon travail.
Mais même ça, c'était déjà trop presque.
Ouais. En tout cas, ça n'allait pas du tout avec une année d'écriture. Donc j'ai dit stop, j'ai coupé.
J'ai pas pris le soin parce que peut-être je l'avais trempé avant de commencer le direct, de faire la liste des endroits où vous allez vous produire. Quasiment, je sais pas, tous les jours, tous les deux jours, en novembre, idem en décembre, janvier, et cela jusqu'au mois d'avril. Cébaza, Bruxelles, Élancourt, Rouen, Besançon, Paris, Cherbourg, Nantes, Bordeaux, etc., jusqu'à Saint-Nazaire. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus spécifique de jouer ?
Ah bah vous venez de citer Nantes, c'est une date spéciale pour moi.
Une double date d'ailleurs.
Une double date, ouais, dans un endroit que j'adore, le lieu unique. Je n'ai jamais chanté encore, donc je suis très excitée à l'idée de chanter là-bas. Et c'est ma ville natale. Et c'est vraiment la ville où je suis allée à la fac, où j'ai encore beaucoup d'attaches familiales, amicales. Donc c'est particulier, quoi, de revenir dans la ville où on est quelqu'un d'autre qu'une chanteuse.
Et ça sonne comment ? Ça change quoi, par exemple, un concert à Nantes ? Vous avez plus peur ? Vous êtes plus joyeuse ?
Je crois que j'ai un peu plus peur, effectivement. Un peu plus peur et c'est le fait de savoir que dans la salle, il y a des gens qui ont pu, par exemple, être mon prof d'esthétique en licence de philo. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà, des gens que j'ai connus dans un contexte complètement personnel, quoi.
Parce que être chanteuse, ça n'est pas un contexte très personnel ?
Bah, disons que, enfin, a priori, je suis quand même la même chanteuse à Besançon ou à Cébaza. Mais ah non, tiens, un petit truc différent.
Ce qui me fait penser quand même à au moins deux chansons de ce disque-là, Racine d'or ou encore Fausse parisienne, des manières de dire que l'endroit d'où l'on vient est un endroit important et que ça conditionne notre manière d'être, nos possibles manières d'être à d'autres endroits. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup chanté, cette idée-là, Jeanne Chéra. J'avais l'impression, en tout cas, de l'entendre d'une manière un peu nouvellement formulée dans ce disque.
Bah, ça va sûrement avec... avec le bonheur d'être quadra, enfin voilà, d'être à un moment de ma vie où j'ai... Comment ? Pardon pour le blanc.
Ils sont autorisés ici, vous allez voir. Non seulement on n'est pas mécontents qu'ils arrivent, et puis en plus on n'en a pas peur.
Bon. Je sais un peu plus où je vais, où je suis et qui je suis, mais ça je pense que ça va de pair avec là d'où je viens, quoi, tout simplement. Et j'avais très envie de parler de ça en chanson. Et il y a notamment la figure de ma grand-mère qui traverse cette chanson Racine d'or. Enfin, j'en parle pas vraiment ouvertement, mais pour moi, c'est vraiment une chanson sur elle, quoi, sur cette figure de ma grand-mère qui a été très importante pour moi, qui a vraiment été un modèle de femme puissante, en fait, de femme très très ancrée dans sa vie, très très forte. Je pense que les figures fortes dans ma famille, elles sont féminines. Mais et vraiment, ma grand-mère était un personnage à la fois très créatif. Elle chantait beaucoup, elle faisait beaucoup de musique, elle faisait beaucoup de peinture. Elle était très attentive à ses contemporaines. Elle menait une chorale, par exemple, dans son village. Elle avait vraiment envie d'amener la musique, d'amener l'art là où il n'était pas forcément très naturel, quoi. Donc, je pense qu'elle fait partie de cette chanson. Enfin, elle est en filigrane, en tout cas. Je la vois quand je parle de ma cabane, des figures. Je ne sais plus comment je dis ça, mais une tendresse pour les ânes. Enfin, c'est pas directement lié à elle, mais elle nourrit ça, en tout cas.
Ça fait penser à une précédente chanson qui s'appelait Femme debout, qui n'était pas liée à votre grand-mère, mais qui était aussi liée à une figure de femme puissante. Vous diriez ça, que les endroits de puissance dans votre histoire réelle ou dans votre histoire chantée, sont des endroits de femme, de féminité?
Ah bah ouais, c'est évident. Femme debout, c'était vraiment une chanson sur ma maman, en fait, sur le fait qu'elle ait traversé des épreuves en restant toujours forte, comme ça, c'est très féminin, j'ai l'impression. Et les figures qui m'ont construite sont féminines, c'est sûr.
Bon, c'est un homme qu'on va écouter parler de ses 40 ans.
Ça m'a fait un sacré un effet bizarre, au moins, la quarantaine. Là, ça va, je commence à en sortir, j'en ai 45 maintenant, quoi. Hein, donc, on va essayer de se calmer avant d'attaquer celle de la cinquantaine, quoi. Non, concrètement, c'est quoi? Ben, les anglo-saxons appellent ça la middle age crisis, paraît-il. Donc, je pense que c'est le moment où il faut un peu, où on commence à être inquiet, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de nouveau aussi pour pas s'ennuyer jusqu'à la fin. Il y a aussi une panne de désir, mais de panne de désir qui soit sexuel, sentimental, qui soit aussi, je sais pas, de désir même existentiel, quoi. Peut-être un gros coup de mou, quoi. Et voilà, ben c'est le moment où il faut un peu retrouver un second souffle.
C'est presque tout l'inverse que vous racontez, Jeanne Girald. 2009, la voix du grand réalisateur Alain Guiraudy qui parle de cet âge-là. Il est à 45 et il se dit que bon, on va vite rejoindre la cinquantaine. Presque on pourrait prendre toutes les phrases et les retourner en négatif pour rejoindre le portrait que vous faites de ce milieu de la vie, non?
J'adore tellement Alain Guiraudy, ça me touche de l'entendre comme ça.
Si joyeux par ailleurs, hein, parler
bien
tout ça.
Sûr, ben ouais, c'est ça qui est beau. Il est d'une sincérité, quoi. C'est hyper beau. Mais donc là, il avait 45 ans.
Il dit ça, ouais.
On verra si dans 5 ans je fais autant ma maline. Hein. J'ai vécu avec beaucoup de joie et beaucoup d'équilibre à ce passage à la quarantaine, mais. Bon, j'espère rester sur cette impression-là, mais je me dis que de toute façon, enfin, on traverse la vie en faisant des vagues, quoi. Donc forcément, je vais déchanter. Mais l'autre jour, j'en parlais avec ma mère justement, et elle a 65 ans, et elle me disait que là, elle vivait ses plus belles années. Je trouvais ça magnifique ces années où elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle adore sortir, elle adore aller au cinéma, au spectacle. Enfin, elle a une vie dont elle rêvait, en fait, aujourd'hui à 65 ans. Je trouve ça hyper encourageant, en fait.
Oui, parce que dans l'an 40, cette chanson-là, qui porte le titre de votre album, à moins que ce soit l'inverse, vous regardez aussi le futur, en tout cas le futur de cette femme, puisqu'elle est... Vous la décrivez, elle, avec la troisième personne du singulier, en disant « Quand j'irai vers d'autres pentes, je pourrai me souvenir de l'an 40 ». On sent bien que vous avez aussi un regard pour ce qui vient après, une manière d'envisager les femmes plus âgées. C'est pour ça que moi, j'ai aussi pris le titre de votre disque comme une manière presque de s'en moquer comme de l'an 40, que ce qui vous intéresse, c'est la pluralité des âges à un endroit où on semble n'en avoir qu'un.
Ah ouais, c'est très bien dit. Vraiment, tant mieux si le titre de l'album fait ressentir ça, parce que c'est sûrement l'idée. Et ça m'a touchée aussi tout à l'heure quand vous faisiez le parallèle. Enfin, ça me faisait penser à ma chanson Le feu où joue, dans cette chanson, j'avais envie de dire que mon corps d'aujourd'hui contient en fait mon corps d'adolescente, mon corps d'enfant. Enfin voilà, c'est la même personne qui demeure. Enfin, c'est une constante avec les mouvances de la vie, mais je trouve ça hyper important, quoi, de se dire que à 12 ans, j'étais déjà la même. c'est métaphysique.
La même est évidemment plein d'autres possibles, et c'est quand même ça que ça raconte aussi, c'est que les pentes ou les vagues dont vous parlez, elles sont aussi contenues dans les chansons que vous chantez, mais peut-être s'attarder un instant sur l'usage du jeu, l'usage, pas facile à dire, du tu et l'usage du elle qui varie dans ce disque-là. Parfois, vous chantez à la première personne, parfois vous semblez vous adresser à quelqu'un et parfois vous dites elle. Ça arrive comment ?
Alors ça, je pense que c'est vraiment le hasard de l'instant d'écriture, quoi. Mais pour L'an 40 en particulier, la chanson L'an 40, ça m'a aidé, je pense, à dire des choses très positives sur cet état de grâce, entre guillemets. À mon avis, j'aurais pas osé dire je ne me suis jamais sentie aussi belle. Enfin, j'aurais pas osé dire ça à la première personne. Ça m'a. Si j'ai une barrière de pudeur dans l'écriture, elle est là.
Et elle se joue pareil quand vous utilisez le tu.
Ouais. J'ai utilisé le tu dans
Fausse Parisienne.
Dans Fausse Parisienne, ouais, exactement. C'était une façon de me parler à moi-même, mais avec un petit recul, une petite ironie et une petite tendresse, quoi. Mais ça, vraiment, ça se joue. J'arrive pas vraiment à l'analyser, quoi. C'est au moment de l'écriture, c'est un jeu aussi. C'est ludique.
L'inconscient est lié au corps. Et donc, dans les romans, j'ai un plaisir fou à évoquer les choses du corps, et pas seulement les scènes d'amour, mais notamment les scènes d'amour, mais aussi les douleurs, les problèmes, les choses qu'on passe sous silence le plus souvent. Je trouve que ça, c'est une des grandes choses que peut faire la littérature, c'est de parler de ce dont on ne parle pas. Et j'ai toujours été déçue, étant petite, de lire les histoires d'amour qui s'arrêtaient juste quand les gens entraient dans le lit. Et ensuite, on se retrouvait le lendemain matin. Il y avait ce hiatus qui me frustrait beaucoup. Et moi, je trouve que c'est un défi intéressant, passionnant pour un écrivain d'essayer de parler de ce qui se passe dans l'échange physique, sexuel entre deux êtres, parce que il y a beaucoup d'écueils, il y a l'écueil de la pornographie, il y a l'écueil de la niaiserie aussi, de l'euphémisme, et pourtant c'est une des expériences les plus puissantes qu'on puisse connaître et que on connaît chacun, et essayer de dire ça, c'est ce qui se passe hors langage, c'est un beau défi.
Pour la littérature, pour la chanson, pour le cinéma, pour plein de choses. C'est Nancy Houston. Elle était au micro de France Culture dans les entretiens à voix nue en 2003. Et juste avant, c'était un extrait de votre chanson, la totalité de votre chanson d'ailleurs, Le Feu aux Joues, Jeanne Chéral. Quand Nancy Houston dit de toute façon, il faut essayer de dire les choses qu'on ne dit pas, c'est quelque chose qu'on pourrait vous adresser depuis votre premier disque, Jeanne Chéral, qui s'appelait 12 fois par an, ouais. Et qui parlait des règles avant que cette magnifique histoire des règles ne soit publiée, je crois, il y a 2 ans, en tout cas avant qu'une partie de la recherche, qu'une partie de l'espace public un peu plus démocratique s'en empare. Ça a toujours fait partie de votre désir, ça, dire les choses qu'on ne dit pas?
En tout cas, la façon dont je vis ma féminité, ça a toujours été ça m'a toujours passionnée en fait. J'ai toujours trouvé que c'était une source d'inspiration inépuisable et puis que ça valait vraiment le coup d'être raconté et d'être dit quoi et j'ai employé un grand mot mais d'être un peu transcendé quoi dans une chanson, dans un texte.
Et pourquoi ça vaut le coup d'après vous?
Bah parce que ça concerne les règles par exemple, puisqu'on parle de ça, ça concerne quand même la moitié de l'humanité, et puis c'est un passage, c'est une expérience physique troublante, qui peut être traumatisante, qui peut être douloureuse, qui peut être rassurante. Enfin, il y a autant de manières de vivre ces règles que de femmes, je crois. Donc je trouvais, mais j'ai pas eu l'impression de d'écrire quelque chose de pour revendiquer ou de révolutionnaire quand j'ai écrit cette chanson. C'était vraiment, pour moi, c'était très important, c'était un sujet important. C'est une chanson sur des règles douloureuses. J'avais envie d'en parler parce que c'était une partie importante de ma vie, même si j'ai pas du tout focalisé là-dessus, mais j'ai écrit cette chanson très très naturellement, comme un sujet de chanson. Comme un autre, en fait.
Exactement. Et j'ai l'impression que c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'à vous lire, j'ai l'impression que qu'il s'agisse d'aller sur le terrain de l'orgasme, qu'il s'agisse d'aller sur le terrain de la rencontre des corps, qu'il s'agisse d'aller sur le terrain des violences faites au corps des jeunes filles ou des jeunes femmes, j'ai l'impression que, je sais pas, vous y allez, quoi. Non, mais à un endroit, comme si vous vous disiez, d'un point de vue littéral, bon, il faut le dire, alors on s'y colle, on y va.
Ouais, ça me passionne, ça me plaît de le faire, effectivement. Ça, c'est ma démarche.
Tout à l'heure, oui. Vous disiez, s'il y a un endroit de pudeur, eh ben, je m'en réserve quelques-uns en fonction de l'usage du pronom, par exemple. Mais
bah, justement,
vous n'êtes pas entravé, par exemple.
Ben pas du tout, et enfin pour ça je vous remercie d'avoir passé l'extrait de Nancy Houston, parce que je me retrouve vraiment quand elle parle de niaiserie, enfin voilà, elle dit
des écueils, ouais.
Ouais, l'écueil de la niaiserie, de la mièvrerie, ou alors d'un trop plein de romantisme floral, enfin c'est ma barrière, elle se situerait plutôt là. Ou alors dans 2 accords qui vont mal s'enchaîner, plutôt dans la forme, mais jamais dans le fond. Pour moi, il y a aucun tabou. Enfin, je vois pas pourquoi je me mettrais des tabous dans mes chansons.
Parce qu'il en existe ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est finalement dire qu'il y en a pas pour vous, c'est dire que
vous êtes
à un autre endroit que à un endroit, à plein d'endroits de du monde, d'inconscient collectif où c'est pas du tout possible d'en parler, ou même ici où ça peut être à certains égards gênant pour certaines personnes.
Ouais, bien sûr. J'aborderai pas certains sujets que j'aborde dans mes chansons
à votre micro, par exemple, ou dans une conversation, dans un dîner. C'est vrai que c'est une chance, je trouve, d'avoir ce terrain d'expression et ce terrain de jeu qu'est la chanson. En tout cas, j'ai vraiment trouvé mon média, mon mode d'expression, quoi.
C'est un terrain de liberté?
Ah ouais, total.
Ça l'a toujours été?
Je crois, ouais. Je me suis jamais vraiment posé la question, donc c'est que ça l'a toujours été.
Mais comment? C'est mystérieux, non? Pas du tout. Pour vous, ça a toujours été un endroit de liberté. Vous n'avez pas eu à conquérir un endroit de liberté d'expression, par exemple?
Non, mais c'est des terrains que j'essaie de conquérir plutôt au quotidien. Enfin, je suis quelqu'un de plutôt réservé, donc là, ça va mieux à 40 ans ou 41. Mais non, j'ai tendance, je suis une personne qui rougit, par exemple. Je suis une personne qui a les larmes aux yeux. Je suis une personne, voilà, c'est des moments où on se sent à poil et on se dit, je suis pas tout à fait libre parce qu'on me voit vraiment. On me voit trop, quoi. Enfin, on voit trop mon trouble.
C'est ce que raconte une partie des choses que raconte le feu aux joues, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Le rougissement.
Et qui part de la couleur. De la couleur et de la colère aussi.
Ouais, ouais.
C'est... La colère d'enfant, la colère de l'adolescente. Mm. C'est un endroit de vous important, la colère?
Ouais. Ah oui, c'est un feu, c'est une nourriture. La colère qu'on peut ressentir, au quotidien, enfin en tant que femme, en tant que citoyenne, quoi, la colère vis-à-vis de ce qui nous entoure, vis-à-vis par exemple de la manière dont certains hommes parlent de Greta Thunberg en ce moment, par exemple. Ça me met en colère. Enfin, je trouve que c'est tellement déplacé, tellement bête et tellement dangereux, quoi. Et c'est hyper sain, en fait, de ressentir de la colère. Enfin, je pense qu'il faut jamais se départir de ce sentiment-là. C'est pas du tout c'est pas l'apanage d'un enfant, la colère. On la ressent étant enfant, mais je pense qu'il faut vraiment la garder, quoi. Il faut continuer de s'indigner tout au long de sa vie.
Oui, vous parlez de colère saine dans cette chanson-là.
Ouais, saine aux colères de ma personne. Exactement, oui, c'est vrai. Bon, je suis raccord.
Ça va, vous êtes à peu près raccord entre ce que vous chantez et ce que vous racontez. Nancy Houston, elle parle aussi de sa frustration adolescente et jeune lectrice de lire des histoires d'amour qui s'arrêtaient quand deux personnes rentrent dans un lit et de les reprendre au moment où, au petit matin, on se lève et les draps sont froissés. De la même manière, ça c'est quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller, vraiment les deux pieds, Jeanne Chéral, depuis toujours, la question du désir, la question de l'appétit sexuel, la question de l'acte sexuel. Mais ce qui était très étonnant, c'est que vous y allez et en même temps, c'est le champ ouvert de la grande métaphore. C'est-à-dire que c'est vous. C'est vrai, comme la chanson réaliste des années 30. Le clitoris va être dit de mille manières, le pénis va être dit de mille manières, le corps de la femme et de l'homme toujours. Comme si vous avanciez sur deux...
Ouais, c'est
dire
mais
vraiment,
vous avez raison,
mais... Marie, vraiment.
C'est pour ça que ça me plaît tellement aussi de d'écrire des chansons d'amour. J'écris des chansons d'amour pour peut-être pour sublimer un sentiment et puis aussi pour exprimer activement un désir. Enfin, pour ne pas seulement attendre un désir. c'est important, je trouve. Surtout, enfin, aujourd'hui en plus, plus que jamais peut-être de la part des femmes, de s'exprimer en tant qu'être désirant, quoi.
D'ailleurs, quand Alain Guiraudy parlait de quarantaine comme étant un endroit où le désir mollit, il disait « je parle pas uniquement du désir sexuel ». Est-ce que vous, quand vous chantez par exemple dans Histoire de vie, quand vous dites « j'ai faim », est-ce qu'on peut le déplacer? Est-ce que ça peut être aussi un appétit de vivre, un appétit de créer, ou est-ce que vous ne parlez que là du désir sexuel?
Ah, mais dans « j'ai faim », c'est vraiment ça, c'est un désir de vie, quoi, un désir... qui embrasse tous les aspects d'une vie, tous les aspects des rencontres qu'on peut faire. J'ai faim de musique, j'ai faim... Je pense même, à chaque fois que je la chante, je pense à Véronique Sanson. À la toute fin de la chanson, où je chante « j'ai faim de verbe féminin ». Et à chaque fois, je pense à elle. Pourtant, je n'ai pas spécialement pensé à elle en l'écrivant, mais à chaque fois, c'est son visage qui me vient quand je dis ça, de verbe féminin.
Et vous avez été rassasiée de verbe féminin dans votre construction, dans vos lectures, dans votre écoute? Vous avez eu suffisamment de femmes chantant à votre oreille et de femmes écrivant sous vos yeux?
Étant ado, peut-être pas. Mais c'est une nourriture... sur laquelle je me rattrape énormément aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années en gros.
Comme quoi par exemple?
je suis très en demande et j'ai très faim de littérature d'écrivaine, par exemple. Enfin, je pense que j'ai dû tout lire Annie Ernaux, par exemple. Je suis très sensible à... J'adore Mona Chollet. Enfin, j'adore le... Chez Annie Ernaux, ce que j'aime, c'est ça. C'est une certaine froideur qu'on a sûrement dû lui reprocher au début de sa carrière. Mais elle a tellement inventé quelque chose, quoi. Une façon d'envisager l'amour et sa féminité avec une lucidité rare, unique, je trouve. Enfin, j'adore vraiment cette femme.
Et une froideur qui passe, par exemple, dans la littérature de Ernaux par des forces de description, des manières d'être quasiment chirurgicales dans
Exactement.
La manière de décrire les choses.
Ben oui, dans la manière de décrire l'amour, dans la façon dont elle se regarde aussi, avec une certaine cruauté. Parfois, parfois je me reconnais dans cette manière de faire, dans cette façon de faire son autoportrait sans complaisance.
Une crudité, mais qui serait comme salvatrice, quoi. Quelque chose qui, puisque vous parlez beaucoup de puissance, qui grandit, se faire une sorte de face à face un peu.
Ouais, c'est ça. Un face à face avec soi-même, en se regardant complètement sans filtre, quoi. sans joliesse.
I don't know how to describe it.
Je ne saurais pas le décrire.
When I think anybody who
je pense
who
que
to sing,
n'importe quelle personne qui aime chanter, en particulier et pas seulement de la musique,
it happens,
les gens qui aiment chanter,
out of instinct in a certain way.
There,
at least that's how it starts.
Instinctif.
I mean, I can remember being, you know,
d'une certaine manière.
Anywhere from 10 to 16
enfin, c'est comme ça,
or however
ça
old I was, being younger and being in my house alone and feeling sad,
je me rappelle avoir entre 10 et 16 ans,
and
je me rappelle être dans ma maison toute seule,
saying, oh, I think I'll sing a song,
triste d'attendre quelque chose
and it would make me feel better.
Et de commencer non pas à me dire que je vais chanter une chanson, mais de commencer simplement à chanter.
And it's that same feeling.
Ça me faisait du bien.
When I perform, except it's stronger
d'évacuer mes
and
émotions.
It's more satisfying because you get the return.
C'est ce même sentiment qui a lieu en concert, sauf que c'est plus fort et plus satisfaisant parce qu'on en a un retour du public.
They can grab onto and it's doing it for them too and
tu ressens ce que tu évacues, ce que tu exprimes. Ils peuvent l'attraper et ça leur fait le même effet et ça semble vraiment nécessaire. Et satisfaisant.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Jeanne Chéral.
On va écouter cette batterie grasse et lourde dans le titre Unbound 1999. C'est un extrait de l'album When the Pound de Fiona Apple. Et Jeanne Allégos, juste avant, traduisait un tout petit morceau d'entretien en 2000. Très simple, mais où elle dit quelque chose de très puissant. Elle a entre 10 et 16 ans, elle s'en rappelle très bien, elle en a marre d'attendre quelque chose et elle se dit pas qu'elle va chanter, elle chante.
Mmh, ouais, elle est tout de suite dans l'action, quoi. C'est vraiment, c'est une femme que j'aime tellement. Je me suis beaucoup, beaucoup nourrie de ce disque dont on entend la première chanson, là. C'est un disque qui est sorti il y a 20 ans et que j'ai tellement écouté. Et je l'ai beaucoup écouté l'année où j'ai, enfin voilà, l'année dernière où j'ai écrit cet album. C'est, ça a été mon, je crois que ça a été ma référence, ma pierre, quoi, mon étoile.
Qu'est-ce qui est précieux dans ce disque-là, ou dans cette parole-là, ou dans cette femme-là, ou dans cette musique, Jeanne Chéral?
Déjà, j'ai l'impression que c'est un disque infini, dans le sens où à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'en retirer quelque chose de nouveau. Un détail instrumental que j'avais pas noté, une sensation, une vibration. Enfin, il est tellement riche, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre, je trouve.
Et dans ce qu'elle décrit, de l'action très performative de la sortie de la tente par le chant. Elle dit, je parle pas des gens qui aiment la musique, je parle des gens qui aiment chanter. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, Jeanne Chéral?
Bah, ce que j'entends, en plus dans sa voix parlée, qui est très émouvante, c'est une urgence, quoi. Une urgence, une nécessité. Elle peut pas faire autrement. Je crois que c'est peut-être la différence entre l'art et le divertissement.
Et vous avez trouvé un moment comme ça, dans le piano ou dans le chant, quelque chose qui s'imposait comme ça?
Je n'irai pas jusque-là, je ne sais pas trop si... Mais en tout cas, je ressens, dans le fait de jouer du piano, en tout cas, je ressens comme... Enfin, je ressens un besoin. c'est étrange, hein. Et puis, ça s'est aussi transposé sur le fait de chanter. Chanter, c'est un acte qui fait tellement de bien. Je dirais pas que c'est une thérapie, parce que le mot est pas très joli, mais physiquement et psychologiquement, ça fait énormément de bien. Même si on chante pas forcément son propos, le fait de poser sa voix, de projeter sa voix, c'est vraiment apaisant, quoi. Et pour moi, être au piano, j'adore être au piano jusqu'à avoir des attelles de tendinite, par exemple. Enfin, c'est en général quand je prépare une tournée, j'en suis là.
Et pourtant, beaucoup, on a quand même l'impression que c'est extrêmement différent. On a l'impression que la médiation d'un instrument, c'est hyper différent que d'avoir son propre instrument en soi. Mais peut-être pas pour vous. Peut-être que vous l'avez tellement incorporé, ce piano, qu'en fait, c'est pas extérieur.
Ça fait quand même pas mal de temps que je joue et j'ai l'impression, je suis pas une grande pianiste, mais disons que j'ai développé avec cet instrument un rapport de. Au début, peut-être, je le vivais plus comme un combat, quelque chose comme ça, une confrontation. Maintenant, mon piano, vraiment, j'ai l'impression de le prendre dans mes bras, quoi. C'est physiquement, c'est super.
Je lisais récemment que vous l'aviez fait à votre main. Comme un an, vous étiez assez contente. Je suis bien contente de tes graves. Je suis assez contente de tes aigus. Ça me va bien, commentait piano. Ça veut dire quoi? Comment on arrive à ça?
Ah, c'est vraiment ça. Ça fait 5 ans que je loue une petite pièce, un studio où j'ai mon piano, un quart de queue, un Pleyel que j'adore, un vieux piano, mais vraiment qu'il s'est fait à moi, quoi. Il s'est fait à mon jeu. Il s'est mis à... Parce que je me dis, j'aime de plus en plus comment il sonne. Et il n'y a que moi qui joue dessus. Donc forcément, c'est vivant, en fait.
Et qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous cherchez chez lui ou dans le son?
Je suis très sensible à la main gauche. Donc j'aime vraiment la rondeur des graves. J'aime bien que les aigus soient un peu feutrés. Et j'aime beaucoup... dans un piano, moi, je recherche quand même de la puissance. Et quand il est à la fois puissant... Et qu'on peut vraiment jouer pianissimo. Alors ça, c'est génial, quoi. Je recherche une nuance et puis un piano qui a vécu. Des fois, quand en tournée, j'ai pas mon piano. Enfin, je suis tributaire des pianos qui vont être sur place. Et c'est toujours la surprise. Enfin, c'est comme si on rencontrait une nouvelle personne avec qui il va falloir construire quelque chose d'artistique le jour même. Et donc, des fois, je suis plus ou moins à l'aise avec le piano. Mais souvent, quand ils sont trop neufs, c'est pas super.
Je mentionnais la batterie, parce que c'est le début de Underbound, ce morceau-là qui, comme ça, semble installé, c'est comme une sorte de cheval de trait qui avance, comme ouais. Ça. Et c'est assez présent dans votre disque L'An 40, Jeanne Chéral. Vraiment, les batteries, elles font pas semblant d'être là, quoi. Elles sont vraiment, elles sont, et elles sont pas tant, c'est pas la question du groove, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien le temps. Vous aimez bien je sais pas comment vous avez travaillé ces batteries-là. Qu'est-ce que vous avez demandé?
Alors, c'est marrant parce que les deux batteurs qui jouent sur L'An 40 sont les deux batteurs du disque de Fiona Apple, Jim Kettner et Matt Chamberlain. Avec Sébastien Hogg, qui a réalisé l'album, on a pensé à eux très très tôt en fait dans le processus. Vraiment, moi, il y a certaines chansons, Le Feu aux Joues, par exemple, je pensais à Matt Chamberlain dès l'écriture, enfin dès les prémices de la compo au piano, ou la compo qui est en croche, je pensais vraiment à lui. Et c'est des séances de studio qui ont été très rapides, parce que j'ai passé une journée avec chacun d'eux. Donc pour eux, je pense que c'est presque anecdotique, alors que pour moi, c'est extraordinaire d'avoir joué avec des musiciens de ce niveau-là, quoi. Et en fait, ce que j'avais envie d'entendre, c'était leur expression personnelle. Enfin, voilà, ce pourquoi ils sont si extraordinaires. Enfin, voilà, Jim Keltner, c'est un batteur qui a presque 80 ans aujourd'hui, qui a accompagné Neil Young, John Lennon. Enfin, c'est vraiment toute une esthétique. C'est un monsieur qui est vraiment chargé d'histoire, quoi. Et puis Matt Chamberlain, je fantasmais sur ces batteries filtrées qu'on entend un petit peu d'ailleurs sur la chanson Underbound qu'on a écoutée tout à l'heure. Mais bon, il est capable de tout, quoi. C'est un virtuose.
Elles sont comme sourdes et puis elles se rapprochent. Du coup, c'est un peu mystérieux. Ça pourrait presque être de la machine, mais en fait, on sent que c'est un instrument acoustique, ouais. Vous allez jusqu'où dans les options de réalisation, dans l'implication d'écriture, de partition de flûte ou de partition de chœur ou de partition de cuivre, Jeanne Chéral?
Bah là, jusqu'au bout.
Well done.
Ouais, ça me paraissait être une montagne. Et en fait, j'ai eu envie de m'atteler à ces arrangements, quoi. À ces arrangements de cuivre. Je m'en sentais pas forcément tout à fait capable au départ, parce que moi, je travaille pas sur partition. Enfin, je me suis évidemment fait aider pour tout retranscrire, par exemple.
Vous le chantez, vous le jouez, par exemple, dans ce que vous entendez pour les cuivres?
Ouais, je le joue.
Au piano?
Ouais, au piano, au clavier, enfin, numérique, et voilà, ça se transforme, enfin, les sons se transforment, quoi. Mais j'avais envie de mener ces arrangements jusqu'à terme.
Et vous aviez quoi en tête, justement, dans ce désir de cuivre qui sont très présents? On peut aussi parler des chorales, parce que ça arrive souvent que les morceaux s'ouvrent comme ça, en moitié ou en fin, vers une grande pluralité de voix, une très grande présence. C'était quoi le désir là-dedans?
Je crois que c'était peut-être l'envie d'apporter une petite touche de sacré ou de lyrisme. Enfin, je vois ça comme ça, hein. Sur le moment, je me suis pas dit. Enfin, c'est pas l'aspect religieux du chant gospel qui m'a attirée, c'est plutôt sa chaleur. J'avais envie d'entendre ses paroles chantées avec un accent. Voilà, c'était une chance de pouvoir travailler avec cette chorale californienne gospel. C'est un souvenir génial.
Ça ressemblait à quoi? Bah, racontez, parce que ça, c'est vrai qu'on se demande, on entend vos paroles qui sont reprises. Ouais. Dès la première écoute, d'ailleurs, avec un léger accent, on se dit, qui sont ces gens qui chantent avec Jeanne Chéral, derrière elle, avec elle?
Bah, il y avait 8 chanteurs, 4 hommes et 4 femmes. Qui vivent à Los Angeles. En fait, on est allé avec Sébastien Hogg, on est allé les chercher, quoi. On est allé là-bas parce que c'était plus évident, c'était plus naturel de, comme avec Jim Keltner et Matt Chamberlain, d'être sur place dans leur microcosme, en fait. Et puis Los Angeles, c'est quand même une ville de musique, c'est une ville en effervescence, en création permanente. Enfin, les concerts que j'ai pu voir dans le moindre petit café-concert, je me disais, mais quel niveau, enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et cette chorale gospel, en fait, c'est pas forcément des gens qui chantent tout le temps ensemble dans un ensemble, mais c'est 8 choristes, en fait, qui ont fait du gospel leur art de vivre, quoi.
Donc vous vous retrouvez en quoi, en directrice de chœur? Comment ça se passe?
Bah ouais, moi qui suis si peu anglophone, bon voilà, j'étais au pupitre et j'agitais les bras. J'ai essayé de transmettre ce que j'avais envie d'entendre le plus simplement et le plus physiquement possible, et en expliquant avec mes mots ce que je racontais en gros dans les 3 chansons que je leur ai demandé d'interpréter.
C'est quelque chose que vous faites volontiers, chanter à plusieurs?
C'est pas fréquent, mais j'adore ça. J'adore faire des duos, j'adore partager ça. Mais je devrais le faire plus. Mais même chanter dans une chorale, chanter dans un grand ensemble comme ça, physiquement, c'est vachement agréable de vibrer à l'unisson comme ça.
Je n'ai jamais caché mon corps sous des voilures opaques. Je n'ai jamais dû me courber. Je n'ai jamais tremblé de peur au son d'un parquet qui craque. Jamais dû me planquer. Je n'ai jamais connu la guerre ni la mort sur du froid. Jamais la faim qui ronge les doigts. Et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi. Ma nature n'a pas de repos. Quand tout sourit, quand tout est beau, j'ai ma tristesse à fleur.
Les larmes, on en tire en effet, on peut en tirer un réconfort et surtout c'est un déversement. Donc il y a une sorte de remède des larmes comme il y a un remède de la fièvre. Et je pense que j'ai été une petite fille qui aimait bien pleurer au fond. je pense que j'ai un rapport à la mélancolie et à l'émerveillement, c'est-à-dire je pense que souvent elles vont ensemble et l'une est une manière de surmonter l'autre. Et j'ai sans doute été un enfant un peu trop grave et solitaire. Et maintenant, la mélancolie s'est plutôt levée. Elle s'est naturellement évaporée, c'est-à-dire que depuis longtemps, je me réveille avec un appétit de vivre et une sorte de curiosité pour le monde qui m'étonne moi-même. Avec des passages et des moments de mélancolie, mais je pense que la mélancolie c'est aussi une chance, c'est une profondeur, c'est une aventure et c'est aussi l'aventure humaine, c'est aussi l'aventure de son retournement, du retournement de la mélancolie en joie.
Mai 2017, c'est la psychanalyste et philosophe Anne Dufour-Montel qui était au micro d'Eva Bester dans l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter. Et juste avant, c'était votre propre chanson, Fleur de peau, Eugène Chéral. Manière de faire avec, Fleur de peau. Manière de dire, je suis comme ça et il va falloir faire avec.
Ouais, c'est ça. C'est la thèse de la chanson. Oui, et puis manière de aussi de considérer certains traits de ma personne. Enfin, je suis quelqu'un qui râle, par exemple. Et des fois, je me trouve tellement déplacée de faire ça. Tellement... Ça m'énerve, quoi, de succomber à ce trait, enfin à ce penchant de râler.
Mais vous râlez mes fraises elles sont molles, ma cravate elle est tachée, ou vous râlez parce que il pleut.
Peut-être que je suis une insatisfaite peut-être. mais j'avais envie de relativiser ça dans la chanson. Enfin, c'était presque pour m'excuser, mais pour dire que quand je râle, j'ai toujours cette petite alarme qui me dit, mais attends, souviens-toi à quel point t'es privilégié dans ta vie quand même.
Oui, mais ça, en fait, ça tient rationnellement, mais en fait, ça tient jamais. Donc, ce qui se passe, et j'ai l'impression que vous parlez d'autre chose que de râler. Vous ouais. parlez d'une tristesse, vous parlez qu'à 4 heures du mat, on ne dort pas et on galère et on tourne en rond et on se réveille le matin et tout pour être merveilleux. Il y a un petit déj, il y a des enfants peut-être, il y a de l'amour, il y a du soleil et on ne sait pas comment s'en débarrasser.
Mais ouais, et il y a cette tristesse à fleur de peau. C'était émouvant d'entendre Anne Dufour-Mantel parler en plus de son appétit de vie. C'est beau d'entendre ce qu'elle disait sur la mélancolie. Enfin, je pense que quand on est traversé par la mélancolie, c'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau toute la vie, quoi. Et c'est un sentiment à la fois nourrissant, parfois apaisant, et puis en même temps, c'est comme de la glu, quoi. On peut pas s'en détacher. Donc c'est peut-être.
Mais et ce qu'elle décrit, c'est aussi le retournement de ça, petite fille ayant aimé beaucoup pleurer, ayant cédé au plaisir narcotique des larmes, et puis à un moment donné, le retourner. La dernière fois que vous êtes venue à ce micro, c'était pour parler de Barbara. Il y a une chanson qui dit ça : mal de vivre un jour, mal de vivre deux jours, mal de vivre 10 ans, et un matin, joie de vivre.
Ouais. Il faut tendre vers ça. Et je pense qu'il faut surtout savoir le saisir, quoi. Saisir la joie de vivre quand elle apparaît. Mais après, ça dure pas.
C'est un instant.
C'est un instant.
Quand dans cette chanson Fleur de peau, vous dites tais-toi, tristesse à fleur de peau,
ouais.
C'est des paroles qui peuvent être performatives, ça marche?
Ça marche, oui, c'est une méthode d'auto-persuasion. Je sais pas si ça marche, en fait.
Et écrire une chanson là-dessus, ça change quelque chose?
Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait tellement de bien, en plus, de le chanter collectivement avec des chanteurs comme ça. Vraiment, elle me fait du bien, cette chanson.
Ma nature n'a pas de repos. Quand tout le monde le chante en même temps, du coup, ça dédramatise un petit peu l'histoire, quoi.
Ouais, complètement. Quand tout va bien, il y a toujours un moment où je vais me dire « Ouais, mais il y a quand même ça. » Voilà, j'avais envie d'exprimer ça dans cette chanson. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, en fait. On n'est pas des ravis de la crèche.
Chanter ensemble, ça a été le cœur d'une grande aventure qui, je crois, continue dans No Land Songs et qui vous a fait chanter autrement. On vous écoute, Jeanne Chéral. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'aventure, vous pouvez le raconter?
Alors, Sarah Najafi, qui est compositrice, et son frère Ayat Najafi ont eu cette idée folle de monter un concert de femmes chanteuses à Téhéran. Et c'était une aventure pleine d'embûches. Et quand on est chanteuse à Téhéran, on ne peut pas chanter, tout simplement, pour résumer la situation rapidement. La voix d'une femme ne peut pas être entendue toute seule. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée, voire couverte par la voix d'un homme, parce que c'est un son trop, entre guillemets, trop excitant, trop érotique, trop, c'est trop beau, quoi. Et on a fini par faire ce concert qui est retracé dans le film No Land Song, film d'Ayat Najafi.
Et ça a bougé quoi chez vous? Parce qu'il y a toute l'aventure collective, ouais. Il y a parvenir à faire ça, il y a aussi, je sais pas, passer des coups de fil, voir arriver des gens des ambassades, mais il y a aussi
des censeurs.
Ce qui se passe pour vous, des censeurs, il y a aussi ce qui se passe pour vous,
de l'intérieur. Bah, est-ce que ça a bougé, franchement, enfin, je rejoins ce dont on parlait il y a deux minutes, là, c'est vraiment la conscience d'être totalement libre de mon propos et de mes mouvements et de ma façon de chanter dans mon pays, quoi. C'est... Moi, je me pose absolument jamais la question de savoir si j'ai le droit de chanter. Enfin, c'est tellement naturel, ça nous vient jamais à l'esprit, quoi. Alors qu'en Iran, on peut pas exprimer son art, on peut pas chanter, quoi, quand on est une femme.
Et quand on vous entendait, alors là évidemment c'est pas un enregistrement studio, bon bref,
non, mais c'est on une entend, répète et ouais. Je braille un peu.
Oui, mais quand même on entend votre voix en début, qui est un endroit assez peu commun, qui est pas l'endroit où vous chantez habituellement, une espèce de, je sais pas, presque si on le dit pas, c'est pas sûr qu'on vous reconnaisse sur les premières notes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est aussi musicalement un déplacement, le fait de, je sais pas, chanter sur d'autres gammes, dans une autre langue, avec d'autres percussions?
Oui, ça c'est sûr. De chanter, là en plus je chante en phonétique, parce que je parle ni farsi ni persan, donc c'est la phonétique totale, et c'est des syllabes, des enchaînements de syllabes et des placements de gorge qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en français. Donc la voix sort différemment, c'est sûr. Et puis en plus là, je chante assez aigu, mais je reste en voix de gorge, quoi. Je suis pas en voix de tête comme ça. Je suis vraiment, enfin, j'envoie, quoi. Donc c'est très agréable à entendre, mais en tout cas, c'est très libérateur.
Agréable à faire, en tout cas.
Agréable à faire. Ouais.
Merci beaucoup, Jeanne Charal. Merci, le disque Marie. S'appelle L'An 40. Il est paru chez Barclay. Vous allez être en concert beaucoup. C'est sympa d'être en concert beaucoup.
Moi, j'adore ça. J'adore.
Mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, vous allez voir passer les saisons. On mettra tous les dates de concert sur le site internet de Parler Temps qui court, Racine d'Or. Et même si Nantes vous tient très à cœur, il y aura Paris et les Folies Bergères le 3 décembre prochain. À la prise de son ce soir, c'était Manu Couturier, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riondet. C'est aussi une page sur franceculture.fr, un podcast via l'appli de Radio France ou via ce que vous voulez. Et un prochain rendez-vous, 22h, le journal sur France Culture. Très belle soirée.
On y vole, on y court, on y fait des tours et des tours. On voudrait en partir. S'ennuie un peu, faut bien dire. On est là, on attend, planté sur nos cannes de 8 ans. Cheveux et bras offerts aux 4 vents. Oh, racine d'or, je me souviens de vous. Les cailloux, les trésors et les gens tatoués debout. Je me souviens de tout. Combien d'années encore me ferez-vous tenir debout? Une mélancolie de l'être, un garde-fou posé par mes ancêtres. Une rigueur toute paysanne, une tendresse pour les âmes et les esprits flottant dans les cabanes. J'y reviens, j'en repars, qu'il est doux d'être de quelque part. J'en repars, j'y reviens, et les ronces me griffent les mains. Tant d'hiver, de printemps. les cailloux, les trésors et les jambes tatouées debout. Oh, racine d'or, je me souviens de tout. Combien de siècles encore nous ferez-vous tenir debout? Racine d'or, racine d'or, racine d'or, racine d'or.